Chapitre 7. Pierre Bostand tendit la main. « Voici Kenyatta College. C'est là que j'enseigne. » Il y a quelques années, à l'époque des Mau Mau, c'était une base militaire. Il y avait encore beaucoup de gens à penser que les Anglais pourraient conserver longtemps leur colonie d'Afrique. Mais c'était impossible. Ou alors, il n'aurait jamais fallu donner à l'Inde son indépendance. Ce qui, bien sûr, était impensable. Ils avaient quitté le centre de Nairobi une demi-heure auparavant. Après avoir fait connaissance avec Bostand, ils avaient entassé leurs bagages dans la Land Rover et pris la route du Nord. Tout de suite, Chantal et Jean-Louis avaient été séduits par la gentillesse et la vivacité d'esprit du jeune homme. Dorjal ne l'avait pas choisi par hasard. 30 ans à peine, blond comme un Anglais, il semblait aimer l'Afrique, et n'avait pas la prétention de ses professeurs que Bayot avait vu si souvent s'exprimer à la télévision dans un charabia incompréhensible. Qu'était-ce au juste que ces Mau Mau? Une sorte de société secrète, à la fois une jacquerie paysanne et un ramassis de coupeurs de tête. Il semait la terreur à Nairobi et dans les villages, forçant les Africains à prêter d'affreux serments et à lutter contre les Britanniques. Le génie de ceux qui avaient organisé le mouvement consistait à embrigader les gens par la peur. Pourtant, beaucoup d'Africains n'étaient pas pour le départ des Anglais, finalement assez populaires. Je vous passe les détails. Rouark, Kessel et Monfred ont tout dit là-dessus. La répression fut sévère, mais inutile. Et l'indépendance est venue à la fin de 1963. Vous êtes au Kenya depuis longtemps ? Non, je suis arrivé en septembre 1965, et j'espère bien y rester aussi longtemps que possible. J'avais l'impression de perdre mon temps en France. C'était pourtant avant mai 1968. Oui, mais ça n'allait pas mieux avant. La situation était déjà pourrie. J'enseignais dans un petit lycée de banlieue. Des gosses venus de tous les horizons. Des Arabes, des Pieds-Noirs, des Italiens, et au milieu de tout ça, des Français. J'étais censé leur faire découvrir les subtilités de la grammaire française, alors que la cour de récréation était l'ONU en raccourci. Si on se mettait au niveau des plus faibles, les petits Français perdaient leur temps. Et si on se mettait au niveau des jeunes Français, les autres ne comprenaient rien. Comme c'était sans solution, j'ai postulé pour la coopération et je suis parti. « Vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps ici ?» insista Chantal. « Absolument pas. Mes petits élèves sont admirables. Ils savent que l'instruction est leur seule planche de salut. La paresse n'existe pratiquement pas ici. Nos grands penseurs qui parlent toujours de la culture bourgeoise feraient bien de venir faire un tour dans mon école. Ils verraient avec quel appétit ces jeunes Africains apprennent. Le soir, il faut faire des rondes dans les dortoirs pour les obliger à éteindre leurs lampes de poche. Pourtant, ils n'ont pas un sou vaillant, sauf quelques fils de ministres. Mais les autres sont prêts à tout faire pour trouver l'argent qui leur permettra de payer leur scolarité. Il y en a qui vont mendier à Nairobi. Quand les vacances arrivent, pour l'instant ce n'est que la période des examens, mais Dorjal a réussi à m'obtenir un congé, ils retournent parfois à pied dans leur village. Ça leur demande des jours et des jours. Et ils repartent 15 jours après pour ne pas manquer la rentrée. Est-ce que cet appétit d'instruction durera longtemps ? Demanda Bayot, intéressé. Évidemment, dans quelques années, ils s'apercevront qu'ils ont été bernés. L'instruction, ils l'auront, mais il n'y aura aucun débouché. Ce sera alors la révolution. Croyez-vous, demanda Chantal, que ces pays aient avant tout besoin de professeurs? En un sens, oui, je sais. Ils auraient également besoin de maçons, de menuisiers, de fermiers, d'artisans. Et ça, on ne leur en envoie pas. Mais je crois sincèrement que je ne suis pas inutile ici. Oh, je ne suis pas dupe, et me rends bien compte que c'est un peu par égoïsme. Un pays merveilleux et un bon traitement. Je crois pourtant qu'un certain courant passe. C'est en somme l'idéal de l'Alliance française. À une époque où les gens ne pensent qu'à acheter une caravane pour se traîner en juillet de parking en parking, je préfère encore être traité d'idéaliste. Mais nous parlons, et je ne vous ai même pas présenté Tika et ses flamboyants. À gauche, si l'on poursuivait par ce chemin, on arriverait à la mission de Mangu, tenue par des missionnaires que je connais bien. Ils y font un excellent travail. Ce sont des gens qui croient en quelque chose. Bayo pensait que tout son malheur était bien là. Il ne croyait plus à rien et ne contemplait plus que des ruines. Mais on ne peut ni se contraindre à aimer, ni se forcer à croire. Peut-être n'aurait-il pas dû se poser tant de questions, accepter les choses et les êtres tels qu'ils étaient, et jouer le jeu comme le faisaient la plupart des gens. Il se garda bien d'exprimer les objections qu'il faisait déjà à ce que Pierre Bostan venait de dire. Pendant 3 semaines, ils parcoururent ainsi des centaines et des centaines de kilomètres, quittant le macadam des grandes routes pour filer sur les pistes défoncées par les pluies, traversant les forêts et les plaines, visitant les parcs, s'enfonçant dans la grande cassure du Rift ou dans l'énorme cratère d'une Ngorongoro, arpentant le vieux port de Mombasa, contemplant d'Oltukai Lodge le lever du soleil sur le Kilimandjaro, traquant le rhinocéros et le buffle à Manyara, poursuivant en voiture la course folle d'une girafe dans la vaste plaine salée d'Amboseli, faisant fuir les hyènes et les vautours quand ils approchaient des carcasses d'un zèbre déchiqueté, faisant étape dans de modestes hôtels ou sous une tente. Peu à peu, en même temps que Jean-Louis Bayo sentait avec inquiétude croître son amour pour Chantal, le médecin avait retrouvé une certaine joie de vivre. Il s'était souvent demandé, en contemplant ces paysages incomparables, si la vraie vie n'était pas là, tout simplement, dans ce contact presque charnel avec la nature, dans ce lien plus charnel encore qui l'unissait à Chantal, alors que le soir s'écrasait comme une chape d'encre et de sang sur leur petit campement. Pendant ce temps, pensait-il, Lambert continue de s'agiter à l'hôpital, de signer sans fin des dossiers, de respirer l'air malsain de Paris, d'analyser des prises de sang, de faire des ponctions, d'envoyer des chèques et d'ausculter tous les matins une France malade et défigurée par les politiciens et les technocrates. Mais cette oasis d'Afrique résisterait-elle longtemps aux assauts du sable ? Le virus de la civilisation n'allait-il pas s'ajouter aux 1000 autres virus que ses confrères des tropiques tentaient de supprimer ? Les gratte-ciels déjà s'élevaient dans le ciel de Nairobi, et les Africains, dans leur obsession de copier l'Europe, s'apprêtaient à répéter les mêmes erreurs et les mêmes folies. Quand ils parcouraient distraitement des numéros de l'East African Standard, il voyait bien, autant que sa médiocre connaissance de l'anglais pouvait le lui permettre, que la politique institutionnalisée remplaçait peu à peu la simple relation humaine. Les politiciens noirs, déjà, passaient leur temps à se congratuler, à prendre l'avion, à tirer des bilans optimistes, à tracer de prétentieux plans de développement auxquels ils étaient sans doute les seuls à croire. Bayo n'était pas assez naïf pour penser que le passé n'avait été que bonheur et liberté. Néanmoins, dans ces villages reculés qu'ils avaient visités, il avait vu des êtres humains qui, malgré leur misère, lui avaient paru plus heureux que les fourmis qu'il voyait s'agiter autour de lui à Paris. Leur âme plongeait ses racines dans le terroir du village. Les vieillards y étaient ces sages qu'on respecte et qu'on aime, alors qu'en Europe, la jeunesse, une jeunesse pourtant prématurément vieillie et amère, ne savait que cracher au visage de ses aînés. Les Africains n'oubliaient pas qu'il faut apprendre avant de devenir adulte, et souffrir soi-même avant de se moquer de ceux qui souffrent. Peut-être cette vision d'un monde exotique était-elle foncièrement inexacte, et procédait-elle de quelque mythe enfoui dans son subconscient. Bostan, pourtant, pensait qu'il en était ainsi, et que la grande richesse que l'Afrique avait à offrir à l'Occident, c'était cette connaissance des êtres et des choses dont le sorcier peut-être était l'inquiétant symbole. Mais dans 20 ans, que restera-t-il de tout ça ? Se demandait parfois Chantal. Sans doute ne resterait-il que quelques grands parcs pour milliardaires retraités, ou, ce qui était plus probable, pour les commissaires du peuple en mission, qui, de France, d'Angleterre, de Chine ou de Russie, viendraient à leur tour semer la bonne parole aux populations attendries. Ici et là, on conserverait quelques vestiges du passé. Les pans de murs de Guédi, près de Mombasa, les vieux quartiers de Lamou et une demi-douzaine de villages Kikuyu, où l'on vendrait des cartes postales de femmes aux seins nus qu'on aurait prises en studio à Milan ou à Tokyo. C'était pour cela aussi que l'Afrique noire était mal partie. Pas plus que les paysannes de la Vienne, l'Afrique ne croyait à sa beauté. Les Noirs n'avaient retenu de l'Europe que le besoin du vernis, des cheveux teintés et des perruques. Certes, les Africains avaient toujours aimé les uniformes et les oripeaux, mais ce qu'ils portaient naguère avait un sens religieux ou social. Ils se souviendraient longtemps de ce petit village des Aberdars, où ils eurent la surprise de découvrir, buvant un Coca-Cola à la porte d'une douka tenue par un Indien, un Africain à la chemise blanche immaculée, à la cravate de quelque club anglais, à l'énorme chevalière, au complet veston bien taillé, tenant à la main un parapluie et le couvre-chef orné d'un énorme chapeau melon. C'était l'image de l'Afrique de demain, une Afrique ridicule avec un chapeau melon sur le crâne. Ils retrouvèrent Nairobi sans grand plaisir. C'était dire adieu au paysage qu'ils avaient aimé et se séparer de Pierre Bostan, de son sourire et de son humour, de son idéalisme sans phare dont cette civilisation en faillite avait tant besoin. Bostan, comme Philippe, ne connaîtrait pas que des lendemains qui chantent. La vie serait plus âpre qu'elle ne l'avait été pour la génération précédente, qui n'avait eu qu'à suivre une route mille fois empruntée et parfaitement balisée de la naissance à la mort. Toutes les valeurs balayées, il leur aurait fallu en trouver d'autres. Cela serait difficile, car les marchands du temple avaient déjà pris place aux abords des routes, l'étal gonflé d'idéologies toutes faites. Les halls des universités de Vincennes et de Nanterre, lui avait dit Philippe, préfiguraient ce marché aux puces de demain. Au stand qu'on y avait dressé, on attirait les badauds à coups de clairons et de roulements de tambours. Ce n'était que la répétition générale. Demain, le choix ne serait plus possible. Les derniers hérétiques seraient brûlés en place de grève, avec les essais de Montaigne que les professeurs déjà se gardaient bien de faire découvrir à leurs élèves. Ils retrouvèrent Dorjal dans son bureau de l'ambassade, d'où l'on apercevait, à travers les baies entr'ouvertes, le parlement du Kenya et le clocher élancé de la cathédrale catholique. « Tiens, voilà les Tartarins du Kenya !» s'exclama Dorjal en venant les chercher dans le petit vestibule d'entrée où ils l'attendaient. « Venez dans mon bureau quelques minutes. » Ils pénétrèrent dans la pièce et prirent place dans les fauteuils. L'attaché culturel s'assit derrière son bureau après leur avoir offert des cigarettes. « Ah, on peut dire que vous avez quitté Nairobi à temps. Quelques heures après votre départ, le ministre de l'économie, Tom Mboya, a été assassiné en plein Nairobi. Les jours qui ont suivi n'ont pas été très agréables. Mais tout cela ne vous intéresse guère. À propos, j'envoie Evelyne en France la semaine prochaine. Elle est en pleine déconfiture. Après l'assassinat de Tom Mboya, elle n'osait même plus aller faire ses courses. Dépression nerveuse, comme on dit. Façon comme une autre d'appeler au secours, murmura Bayou.
Dorjal hocha la tête.
Je m'en rends bien compte. C'est d'ailleurs ce que je vous ai laissé entendre l'autre jour. Vous avez dû me trouver bien mal élevé, surtout vous, mademoiselle. Le linge sale, on devrait le laver en famille. Que voulez-vous, quand il y en a trop, il faut bien faire appel aux voisins. Avec les vacances qui arrivent, je vais pouvoir envoyer mes enfants chez des amis. Et Evelyne ira passer quelques semaines chez sa mère à Besançon. Entre nous, je ne sais pas si ça la retapera beaucoup. Sa mère est une vieille désaxée dont Freud lui-même n'aurait pas voulu. Son père, un tabellion miteux en retraite, ne pense qu'à sa collection de timbres. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, je me remarie un jour, j'épouserai une orpheline et une fille unique. Car les belles familles, il faut se les farcir, passez-moi l'expression. Et que je t'embrasse la tantine, et que je te bécote le tonton, et que je te tape sur le dos du beau-père, et que je te chatouille la belle-mère. Moi, j'ai été servi. Une vraie mafia. 20 personnes au dernier recensement, et tous plus ou moins cinglés. L'Oscar de la névrose. 10 thèses de doctorat n'épuiseraient pas le sujet. J'aurais dû suivre les conseils du père Algan et entrer dans les ordres. Au fond, mes amis, seul le mariage posthume évite les désillusions. Notez bien que pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. j'ai mis 7 000 kilomètres entre mes beaux-parents et moi, ce qui ne les empêche pas de nous donner 2 fois par semaine des nouvelles de leurs intestins par le courrier diplomatique. Un beau jour, la tribu va débarquer par charter. Mais là, je ne les raterai pas. Je ressuscite les Mau Mau. Et si les Mau Mau n'en veulent pas et que les crocodiles font la fine bouche, ce qui ne m'étonnerait pas, je ferai détourner le charter au retour. On les foutra dans un harem du golfe Persique. Et ce sera la fin de l'islam. Il paraît que ça se fait beaucoup actuellement, lança Bayo. Oui, c'est moins cher que l'arsenic et ça fait avancer la révolution. Je vous trouve bien amers tous les deux, murmura Chantal en souriant. Ah, mademoiselle, reprit Dorjal, il faut avoir été dans les tranchées comme nous deux pour parler en connaissance de cause. On tombe amoureux d'une jolie fille, on accepte de l'épouser parce qu'on trouve que ça ne serait pas désagréable de faire un bout de chemin avec elle. On piétine son orgueil pour ne pas refuser la mascarade de l'hôtel de ville. On invite pour les agapes 50 de pique-assiettes qui critiqueront le menu dès qu'ils auront quitté la table. Et votre femme qui vous susurre dans le creux de l'oreille et de l'oreiller, on voit bien que tu ne m'aimes pas. Sinon tu l'aimerais mieux, ma gentille petite famille. C'est la vieille histoire du « aime-moi, aime mon chien ». Même si le chien est un sale clébard qui vous bave sur le pantalon. 5 ans que j'ai supporté ce carnaval. Dans le même temps, j'étais exploité par l'évêché qui nous tenait le même langage. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours faire vos valises. Le chantage, toujours le chantage. C'est le chantage qui perdra l'Occident. Regardez ces détournements d'avions, justement. Le premier jobard venu, pour faire parler de lui, n'a qu'à détourner une caravelle, et l'instant d'après, toute la presse du monde sera prête à interviewer ce salaud et à enregistrer le moindre de ses barborigmes. Ce sont les Israéliens qui ont raison. Au chantage, il faut toujours répondre par le refus, même si tout le monde doit sauter. C'est finalement ce que j'ai fait. J'ai refusé le chantage. J'ai pris mes clics et mes claques et nous sommes partis pour la Jamaïque, où j'ai commencé à boire comme un trou, à coups de bouteille de rhum, pour oublier les tranchées. On a toujours des tranchées à oublier. Ce que je regrette, c'est de ne pas m'en être arraché plus tôt, de n'avoir pas foncé vers l'ennemi, baïonnette au canon, et de n'avoir pas passé la mafia par les armes. Comme disait un de mes amis, il faudrait une âme de boucher pour être heureux dans la vie. Moi, j'avais une petite âme de rien du tout. Une petite âme de poète. Et vous voyez à quoi ça m'a mené. Un mariage foutu, un moral en dessous de zéro, et des artères qui, comme les égouts de Paris, ne doivent charrier que des détritus. D'un geste là, il montra le sous-verre qui se trouvait sur son bureau. Et mes enfants, nom d'un chien, qu'est-ce qui m'a pris de ne pas me faire châtrer à l'âge du service militaire? Mais ma femme aimait ça, avoir des gosses, je veux dire, car pour le reste... Et pour faire bonne mesure, elle a eu des jumelles à New Delhi, une chance de cocu. Un peu plus et j'héritais de quintuplé. Mais il fallait faire bonne figure au hit-parade des géniteurs à plein temps. À chaque congé que nous prenions en France, la belle-mère instillait son opium comme un goutte-à-goutte. Ce sera pour quand, le prochain petitot? Ah, comme Jacques sera content quand il aura une petite sœur. C'est pour bientôt, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, moi, contre un tel bataillon de choc? Mais bah, je ne regrette rien. Le sourire de mes gosses, après tout, me fait oublier toutes mes cicatrices. Enfin, tout ça ne vous intéresse pas. Vous allez reprendre l'avion demain matin. Vous serez bientôt à Paris avec vos occupations, vos projets d'avenir peut-être, vos rêves et tout ce que je n'ai pas eu. Alors les déglutitions d'un vieil alcoolique raté ne peuvent pas vous émouvoir beaucoup. Tu n'es pas un vieil alcoolique raté, René, murmura doucement Jean-Louis Bayou. Trop lucide pour être un vrai raté, trop amer, hélas, pour espérer autre chose, trop faible pour changer quoi que ce soit. Tu as fait comme tout le monde. Tu as pris un train en marche sans trop savoir où il allait, et quand tu as vu que le contrôleur avait une sale tête, tu n'as pas eu le courage de sauter par la portière. Oui, tu as raison. On ferait mieux d'acheter une chaise pliante, de s'installer près d'un passage à niveau et de regarder les trains passer. Comme ton ami Lambert, comme Monterland. Malheureusement, nous prenons tous les trains en marche. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons jamais le choix. Lambert, pas plus que nous. Lui non plus n'a pas su sauter. En un sens, je vais bientôt y aller, moi, de mon petit roulé-boulé. Jean-Louis, s'exclama Chantal en le prenant par le bras, comme pour l'arrêter. Oui, tu m'as fait des confidences, René. Eh bien, je vais t'en faire une. Dans 6 mois au plus, il n'y aura plus de Jean-Louis Bayot. Cancer du sang. Irréversible. Dorjal fixa Bayot pendant une longue minute, et sa main droite, qui tenait une cigarette, se mit à trembler. Je savais que ce voyage au Kenya cachait quelque chose. Et moi qui enviais ta santé et ta réussite. Ma femme vous jalousait tellement tous les deux que je crois bien que votre visite a été l'origine de sa dépression. Il éclata d'un rire nerveux. Moi avec ma cirrhose, toi avec ton cancer. Nous allons pouvoir piquer un joli sprint sur les derniers 100 mètres. Ah, vraiment, nous faisons une jolie paire de clowns tous les deux. Il s'arrêta soudain quand il vit que Chantal s'était mise à pleurer.